religions du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le chantier de rénovation de l'islam en France est en pleine effervescence. D'un côté, il y a le projet de loi pour conforter les principes républicains, le nom donné à cette future loi pour contrer l'islamisme et le séparatisme. Ce projet de loi est donc dans sa phase préliminaire à l'Assemblée nationale avec l'examen des amendements. Et puis de l'autre côté, dans ce même esprit de forger un islam républicain affranchi de l'islam politique, il y a eu la signature lundi dernier à l'Élysée par les 5 grandes instances de l'islam de France de la charte des principes de l'islam de France. Cette charte, signée après pas mal de remous, est appelée à devenir la référence des imams. Une actualité forte donc, qui restera un des marqueurs du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et c'est dans ce contexte que le quotidien La Croix va proposer à ses lecteurs, chaque jour, durant 2 semaines, à partir de demain jusqu'au 7 février, une grande enquête intitulée « L'islam, c'est compliqué ». En effet, pas simple l'islam, avec cette interrogation récurrente sur sa compatibilité avec les valeurs de la République. Dans le cadre du partenariat RFI La Croix, nous recevons dans ce studio la journaliste de La Croix, Anne-Bénédicte Hoffner, qui a piloté ce grand dossier. Et puis, dans une deuxième partie, en ligne de Toulouse, l'essayiste et professeur d'histoire et de géographie, Fatia Boudjalal, nous parlera de ses attentes, de ce projet de loi, de la laïcité à la française, des menaces aussi qui pèsent sur l'école, l'enseignement et plus largement pour elle sur la démocratie, thème qu'elle aborde dans ses 2 livres, Le Grand Détournement et Combattre le voilement, publié aux éditions du CERF. On ouvre avec vous, Anne-Bénédicte Hoffner, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être dans ce studio. Alors, au quotidien La Croix, au service religion, vous avez été en charge du dossier islam et à ce moment-là, vous avez publié chez Bayard, les nouveaux acteurs de l'islam. Aujourd'hui, vous êtes au service international et donc vous avez piloté ce dossier, l'islam, pourquoi c'est compliqué? Alors moi, j'allais vous poser une question, Anne-Bénédicte, pourquoi ce titre?
En fait, il nous a paru vraiment adapté à ce qu'on perçoit de la part de nos lecteurs, c'est-à-dire parfois de l'inquiétude, mais aussi d'abord une incompréhension, une difficulté à appréhender ce qu'est l'islam dans une profusion de discours. Donc on s'est dit, puisque c'est tout le monde trouve que c'est compliqué, allons-y, assumons cette complexité et essayons de traiter thème par thème, un peu d'essayer de démêler de l'extérieur et de l'intérieur ces questions qui fâchent ou qui dérangent. Pour nous, non-musulmans à l'extérieur, ça peut être comprendre l'islam comme religion, certains de ses concepts, de ses pratiques, etc. Ou ça peut être aussi nos relations. Dans certains cas, certains des dossiers portent sur les relations entre les musulmans et les non-musulmans. Pourquoi est-ce qu'elles sont parfois donc compliquées? Quel est le passif entre les deux? Quelles sont les représentations qu'on a les uns des autres? Voilà, donc c'est un peu tous ces thèmes qu'on a essayé de brasser, de déblayer, aborder franchement, certaines des questions qui
traversent la société française. Vous avez construit ce grand dossier en 2 temps, puisque ce sont 2 semaines. Première semaine, c'est plutôt effectivement une sorte de panorama de cet islam de France, on peut même presque dire des islams de France. Vous commencez quand même par, ce dossier un peu délicat, l'islam, hein, le Coran, sa lecture, comment faire?
Exactement, donc chaque fois on essaye de faire à la fois un reportage qui fait parler des musulmans et qui pose le problème, et puis on a tous les jours un portrait et ce qui s'appelle chez nous une explication, donc c'est-à-dire une approche un peu plus théorique et pédagogique sur le sujet. Donc là, pour ce jour-là, sur le Coran peut-il être interprété, on est allé dans des facultés de théologie islamique qui sont ouvertes en Allemagne dans les universités publiques depuis 10 années pour voir ce qu'elles apportent finalement au travail sur le Coran et ce qu'elles permettent comme relecture pour aujourd'hui des sources de l'islam.
Donc la France gagnerait, selon vous, à ce que l'université s'ouvre davantage aux sciences islamiques?
Oui, alors aux sciences islamiques ou à l'islamologie.
Et à l'islamologie, oui.
Des sciences islamiques, mais avec le niveau d'exigence qui est celui de l'université.
Cette enquête permet de mieux saisir la diversité de l'islam en France et puis aussi les dissensions internes. Et ça sera mardi. Le reportage se déroule à Marseille et là, vous avez rencontré un Comorien qui a beaucoup de mal à s'insérer dans une mosquée maghrébine à Marseille. Alors ça, c'est un exemple qui montre eh bien, que cette unité de façade, en réalité, n'existe pas, Anne-Bénédicte Hoffner.
Oui, ça fait partie, c'est ça, des choses qu'on a du mal à percevoir de l'extérieur. Souvent, les musulmans nous parlent d'une umma. Ils ont aussi un peu ce rêve d'être unis entre eux. Et en réalité, nous, quand on regarde de l'extérieur, on voit bien qu'il y a des courants différents. Déjà, quand on regarde le Conseil français du culte musulman, oui. On voit bien qu'entre Marocains et Algériens, c'est compliqué. C'est compliqué aussi entre Maghrébins et Africains d'Afrique subsaharienne. C'est compliqué aussi avec les Turcs. Donc, on a choisi une de ces frictions.
Il est touchant, ce Comorien, d'ailleurs. Je le trouve très touchant, ce Comorien, qui aimerait bien aller dans la mosquée, mais il peut pas.
Il peut pas. Alors, d'une part, il s'en méfie parce qu'à un moment, il s'est tenu un discours salafiste. Et puis aussi parce que c'est un islam maghrébin. Et tout dépend des lieux et des imams et des communautés. Mais parfois, les subsahariens ne sont pas très bien reçus dans les mosquées maghrébines. Ou également, ce qui est rapporté, dès lors qu'il y a un conseil d'administration et quand il faut choisir un président de l'association qui porte la mosquée, les Maghrébins vont naturellement, en tant qu'Arabes, se sentir plus légitimes à diriger la mosquée.
Supérieure même.
Alors, et voilà. Et dans le deuxième papier, c'est tout à fait ça, on essaye d'analyser qu'est-ce qui est dit dans le Coran et dans la tradition sur la communauté. Et de fait, ce que vous dites est très juste, il y a une phrase qui dit dans le Coran que Dieu a fait de la communauté des musulmans la meilleure au monde. Donc, en réalité, bon, c'est une manière de s'exprimer, de leur poser des exigences, mais de fait, ça peut être interprété parfois par les musulmans comme eux-mêmes sont supérieurs aux autres.
Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'on montre dans ce, vous montrez dans ce dossier les dissensions, cette unité de façade qui, bon, n'existe pas dans le fond, et aussi ce dossier défait des idées reçues, ou en tous les cas met en avant une nouvelle génération de jeunes musulmans en France. Et là, je me tourne vers Nicolas Sonnez. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous avez signé un papier donc sur ces deux musulmans qui sont assez représentatifs de cette bourgeoisie, on va dire, à une époque on disait bourgeoisie, on le dit plus maintenant, de cette bourgeoisie musulmane qui a trouvé tout à fait sa place en France et qui précisément veut vivre un peu, comme un chrétien vit sa religion en France, c'est-à-dire de façon privée. Et là, vous avez rencontré deux jeunes qui sont proches de l'imam, mais maintenant, je sais qu'il n'est plus imam depuis décembre 2020, de cet imam d'Ivry-sur-Seine, Mohamed Bajrafi.
Oui, ce sont deux quadras qui sont tout à fait représentatifs de toute une génération de musulmans qui ont grandi finalement dans la laïcité, qui ont obtenu un certain niveau intellectuel, social, qui ont fait des études, et qui aspirent à ce que l'islam qu'ils vivent, en fait, corresponde à ce niveau intellectuel. Et donc, ils ont une recherche à la fois spirituelle, et puis ils ont une envie d'agir pour que l'islam en France évolue, soit conforme à leurs aspirations. Et ils m'ont raconté aussi les difficultés, c'est-à-dire que il y a toute une partie des musulmans qui leur reprochent de ne pas être de bons musulmans parce que ils ne font pas ce qu'on a toujours fait d'une certaine façon. Et puis il y a aussi une partie des extrémistes côté français qui leur reprochent finalement d'agir de façon une cinquième colonne, puisque ils sont musulmans, ils se revendiquent musulmans, mais ils ne sont pas des musulmans comme on s'attend à ce qu'ils soient, donc forcément ils allaient se cacher.
Oui, alors effectivement, ils vous ont raconté par exemple que ça n'était pas venu tout seul, il y avait eu un chemin, il y avait eu une sorte de cheminement, par exemple lorsqu'ils parlent de leur rapport à Dieu, eh bien ce rapport a changé, s'est modifié, il n'y a plus la peur comme ça a pu être enseigné dans l'islam, la peur de Dieu.
Oui, c'est un cheminement qu'ils ont mis du temps à faire, comme aussi beaucoup de chrétiens d'ailleurs.
Oui.
Mais c'est vrai qu'ils expliquent que l'islam qu'ils ont appris, c'est l'islam de France des années 60-70, un islam des gens qui arrivaient du bled. Il y en a un qui m'a dit que c'était un islam pauvre, et pauvre aussi intellectuellement, et qu'il leur a fallu longuement réfléchir, longuement apprendre, un véritable chemin intellectuel pour une approche finalement beaucoup plus spirituelle, ou découvrir que le geste, l'obligation finalement n'est qu'un moyen et qu'elle ne trouve son sens que par la spiritualité.
Alors, avec Mohamed Bajrafi, là, ils ont monté un groupe, c'est ça, de réflexion ? Expliquez-nous en quelques mots, Nicolas Senez.
C'est un groupe, il s'intitule entre eux Les Bizarres.
Les Bizarres, oui.
Bajrafi, il y en a qui aiment beaucoup d'humour, et qui justement a voulu finalement rassembler un peu naturellement autour de lui des gens d'un peu tous horizons, qui partagent autour de ces aspirations communes, et en même temps, c'est des gens qui disent qu'ils ont beaucoup reçu de la France et qui ont envie de redonner ce qu'ils ont reçu à travers une action sociale, une action éducative, et de faire partager aux jeunes musulmans, aux jeunes des banlieues en général. Kaoufik Barbouchal, que j'ai rencontré par exemple, travaille pour aider les jeunes des banlieues à découvrir, à se préparer pour la prépa et faire des grandes écoles, des choses qui ne les effleurent souvent jamais.
Taoufi, donc, qui est ingénieur en informatique, hein, qui gagne bien sa vie.
Qui a un peu laissé tomber une belle carrière qu'il avait pour essayer de redonner justement à des jeunes cette envie de faire de bonnes études pour justement faciliter aussi leur intégration à la société française.
Merci Nicolas Senez. Donc, votre article, on pourra le lire mercredi prochain dans La Croix. Merci. Je reviens vers vous. Anne-Bénédicte Hoffner, dans cette semaine, on parlera également des couples mixtes. Alors ça, c'est vrai que les couples mixtes, c'est quand même pas simple. Hein.
Pas toujours simple. Donc effectivement, il y en a qui vont être interrogés. On donne la parole volontairement à ce qu'on pourrait appeler les nouveaux penseurs de l'islam. En fait, ceux qui cherchent des réponses pour ces musulmans dont parlait Nicolas Senez à l'instant, qui cherchent à pratiquer, à vivre un islam apaisé et qui correspondent au fond à leur vie en France au XXIe siècle.
Alors, ce premier cycle, hein, j'allais dire, la semaine prochaine, donc, de cette grande enquête, l'islam, pourquoi c'est compliqué, s'achèvera sur la question de la mémoire, des mémoires. Alors, lesquelles ?
Alors, toujours pareil, parce que donc, le titre général, c'est l'islam, pourquoi c'est compliqué. Donc, on a cherché toutes les raisons pour lesquelles c'est compliqué et on s'est dit que évidemment, quand on est musulman et non musulman, l'un à côté de l'autre ou l'un en face de l'autre, avant même qu'on ait commencé à se parler de nos religions ou de nos non-religions, mais avant même qu'on aborde les sujets eux-mêmes, on a une représentation les uns des autres, et cette représentation est parfois, et souvent même, lourde de siècles de conflictualité.
Alors la colonisation,
les
croisades, etc.
Les invasions musulmanes dans les premiers siècles de l'islam. Donc, en fait, donc on a choisi deux professeurs impliqués en banlieue les deux et qui rencontrent et des musulmans et des non-musulmans et on les a fait dialoguer sur cette question des mémoires en leur demandant chacun ce qu'ils entendent des deux côtés, côté musulman et non-musulman. Et à chaque fois, ils analysent ce qu'ils entendent et en même temps, ils essayent de voir comment on pourrait travailler sur ces mémoires et sur ces représentations pour qu'elles ne nous empêchent plus de dialoguer et évidemment de vivre ensemble.
Merci Anne-Bénédicte Hoffner de nous expliquer donc cette première semaine hein, de l'enquête de La Croix, l'islam, pourquoi c'est compliqué. Et puis à l'issue effectivement de ce dossier, eh bien il y aura une conférence en ligne, c'est ça, dont vous serez l'animatrice et ça sera début février, donc en ligne, hein, c'est bien ça.
Jeudi 5 février avec deux islamologues, Emmanuel Pisani, qui est dominicain et directeur de l'ISTR à la Cato de Paris, et Rachid Benzine.
L'islamologue Rachid Benzine. Merci Anne-Bénédicte Hoffner. Merci.
Merci beaucoup.
Professeur d'histoire-géographie en collège à Toulouse, Fatia Aga Boudjala est une militante. Ses tribunes sur les réseaux sociaux, ses livres, s'inscrivent tous dans cette démarche, la défense de la laïcité à la française qui protège la femme et le combat contre l'islamisme et le communautarisme qui l'asservissent. Deux grands livres, Le Grand Détournement 2017 aux éditions du Cerf et chez le même éditeur Combattre le voilement, préfacé par Elisabeth Baninter. Fatia Aga Boudjala, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous en ligne de Toulouse. Alors, comme c'est la première fois que vous êtes présente dans l'émission Religion du Monde, quelques mots de présentation. Donc, vos parents sont nés en Algérie, vous êtes la seule fille d'une fratrie de 7 frères et votre mère, Yamina Agag Boudjala, vous a élevée seule. La France, votre pays, vous la chérissez d'un amour citoyen, dites-vous, mais vous êtes inquiète pour elle. Alors, on commence par l'actualité, une actualité qui vous concerne. Vous avez demandé, comme tous les professeurs, une minute de silence après l'assassinat de Samuel Paty, donc cet enseignant d'histoire-géographie, décapité pour avoir fait un cours sur la liberté de l'information et le blasphème. Et comme tous les professeurs, je le rappelle, donc vous avez demandé une minute de silence qui n'a pas été respectée par 5 jeunes. Vous l'avez signalé, ce qui est tout à fait normal, et le syndicat Sud et CGT ont écrit au recteur de l'Académie de Toulouse et au président du conseil départemental. Le ministre de l'Éducation a évidemment trouvé ça absolument hallucinant. Comment expliquez-vous cette attitude ?
Alors, pour être très factuel, ce ne sont pas mes 5 élèves à moi, qui est, moi, tous D'accord. mes élèves ont fait la minute de silence bien volontiers.
Oui.
Ce sont 5 élèves de la classe d'accueil, c'est-à-dire que beaucoup de collèges ont une classe, ça s'appelle UPE2A, pour accueillir des enfants qui viennent directement de l'étranger. Et ils ont plus de cours de français pour faciliter leur intégration. Et en fait, l'enseignante qui s'occupe donc de cette structure avait laissé le choix aux élèves, chose déjà qu'il ne fallait pas faire. Et donc 5 élèves ont refusé, et donc elle est venue m'en parler pour que je débriefe avec eux et que je refasse un cours sur la laïcité, qui est un sujet qui la mettait énormément mal à l'aise. Les enseignants aiment bien rester à l'abri de leur tour d'ivoire disciplinaire. Et donc, elle l'a signalé au principal. Et puis, moi, j'ai fait un compte-rendu sur Facebook en disant, voilà, sur mon collège de 380 élèves, ça s'est très bien passé, à part 5 élèves qui, venant de l'étranger, eux ne connaissent pas et ne comprennent pas que nos législations sociales généreuses sont liées à des valeurs. Et on ne peut pas vouloir ces législations sociales, on ne peut pas vouloir en profiter sans respecter ces valeurs. Elles sont liées, on protège la dignité, on protège l'être humain. Et donc je l'avais écrit, et pour découvrir 2 semaines après donc, cette lettre ouverte demandant une sanction à mon recteur, en se basant sur une loi que ces deux syndicats avaient combattue quand le ministre Blanquer l'a fait voter à l'Assemblée, c'est-à-dire une loi qu'ils présentaient eux-mêmes comme une atteinte intolérable à la liberté d'expression.
Liberticide, et, carrément, quoi.
Voilà, liberté, c'est comme ça qu'ils l'ont présentée. Et là, ils ont fait une erreur insupportable pour des syndicats qui se disent de gauche. C'est-à-dire que quand le ministère voudra utiliser cette loi qui réclame que les profs soient discrets et qu'ils soient en fait des demi-citoyens, qu'ils n'aient pas accès à la même liberté d'expression, quand le ministère voudra sanctionner des profs trop critiques sur les réseaux sociaux ou ailleurs, que pourront dire les syndicats ? Puisque eux-mêmes sont les premiers, depuis que cette loi a été adoptée, à user de cet article, a demandé à ce qu'on applique cet article contre une enseignante. Et je suis une enseignante à temps plein, je suis dans ce collège depuis 8 ans, je suis enseignante depuis 17 ans. Et puis ça a pris des proportions. Il y a même un journaliste italien qui m'a contacté pour en rendre compte.
Et d'ailleurs, à la suite de cette affaire, vous avez demandé une protection, et on peut le comprendre.
Cette lettre ouverte a été donc diffusée sur les sites, mais elle a été envoyée à tous les militants avec le nom de mon collège. Donc non seulement ça permet de m'identifier, mais ça permet également d'identifier mon collège. Et comme le disait la compagne de Caroline Fourest qui s'appelle Fiametta Vénère, l'accusation d'islamophobie tue ceux qu'on accuse d'islamophobie. C'est ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Alors voir des syndicats d'enseignants qui se disent en plus de gauche me livrer, me mettre une cible sur le dos, leur communiqué a été partagé, notamment sur des sites antifa. Mais voilà, ils me désignent comme un adversaire, ils me mettent une cible sur le dos. Donc, après ce qui est arrivé avec Samuel Paty, je précise en plus que le syndicat Sud est le seul syndicat qui a refusé de participer à Toulouse à la manifestation en hommage à Samuel Paty. Donc, franchement, je regarde ça avec, je suis sidéré.
Pour vous, c'est une illustration de l'islamo-gauchisme en France ?
Ah, mais c'est même pire. Le syndicat Sud est un syndicat qui alimente le séparatisme. Le syndicat Sud, c'est celui qui organise en Seine-Saint-Denis des formations syndicales interdites aux Blancs. C'est-à-dire qu'ils font de la ségrégation raciale soi-disant pour libérer la parole, mais dans les faits, comment enseignante je vais expliquer à mes élèves que je vais séparer les Arabes pour qu'ils puissent parler entre eux, les Noirs pour qu'ils puissent parler entre eux, puis les Blancs pour qu'ils puissent parler entre eux. Voilà, eux, ce qu'ils font. Ils soutiennent activement les indigénistes, le courant indigéniste, les islamistes, et eux viennent me reprocher à moi, qui dois tout à l'école de la République, moi la fille d'immigrée, moi la musulmane. Vous voyez, c'est encore ce que j'appelle la vaste famille des bourgeois pénitents. C'est-à-dire, pour masquer leurs privilèges de classe sociale, ils surjouent les gens hypersensibles sur soi-disant l'antiracisme. Ils ne connaissent rien des immigrés, ils ne connaissent rien des enfants d'immigrés. Moi, c'est ma vie. Donc, je n'ai pas, comme eux, cette vision misérabiliste de l'immigré. Ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est que j'ose dire que les parents immigrés qui étaient venus avaient fait une comparaison entre les législations sociales des pays. Par exemple, un gamin albanais, entre l'Albanie et la France, il y a la Suisse, il y a l'Autriche, il y a l'Italie. Pourquoi ils viennent jusqu'en France, jusqu'à Toulouse? Voilà. Moi, mon père, quand il a quitté l'Algérie, on lui a beaucoup reproché, nous, quand il était là, pourquoi tu t'es pas arrêté à Marseille? Pourquoi il a fallu que tu montes dans l'est de la France où il fait froid? Ben voilà, les immigrés ont des compétences, ils ont des agendas, ils ont des projets. Ce ne sont pas des espèces de bébés phoques. Et voilà comment ces gens-là les regardent, parce qu'ils ne les fréquentent pas et ils ne les connaissent pas.
Alors, pour rester précisément dans l'actualité, Fatiha Agad Boudjala, et il y a ce projet de loi actuellement qui va être prochainement en discussion à l'Assemblée nationale contre le séparatisme, hein, bon, même s'il porte, ce projet porte un autre nom. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce projet? Et puis, actuellement, il y a effectivement la question du voile. Et ça, vous êtes tout à fait vent debout contre le port du voile. Il y a la question du voile qui est posée. Déjà, qu'attendez-vous de ce projet de loi?
Je vous dirais que ce que j'attendais et ce qui m'a ravi, c'est le discours prononcé par le président Macron au Mureaux. Parce qu'il a fait sa mue. On avait un président et un candidat authentiquement multiculturaliste à célébrer la religion, qui avait même dit qu'un catholique très pratiquant, c'était normal qu'il trouve que sa foi était supérieure à la loi. Il a fallu que des têtes tombent, celles d'un enseignant, il a fallu que des croyants soient assassinés à Nice, pour enfin accoucher dans la douleur, hein, une vraie maïeutique, hein, de ce discours des Mureaux, où Macron a eu cette phrase impeccable: l'école de la République doit produire des citoyens rationnels. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'interdisait de penser. On était en train de dire le premier livret laïcité mis en place par Najat Vallaud-Belkacem, et on pouvait y lire cette phrase: il ne faut pas mettre en concurrence la science et la foi. Ben, comme je dis à mes élèves de 6e, quand il s'agit de se rassurer sur la vie après la mort, oui, la foi est supérieure à la science. Quand il s'agit de trouver un médicament à un virus planétaire, quand il s'agit de faire voler les avions, ou quand vous ouvrez la fenêtre et que vous sautez, ben, je suis désolée, c'est la science qui est supérieure. Voilà. On est dans ce relativisme, et là, pour une fois, on sortait. Alors, le projet de loi, il va être tellement amendé que je trouve qu'il faut pas trop se prononcer dessus, mais insister sur la scolarisation, c'est pas mal. Mais en même temps, on sait que ça va favoriser l'enseignement confessionnel, y compris hors ou sous contrat. Donc j'attends de voir, il va y avoir tellement d'amendements et tellement de retouches après le Sénat. Alors, je trouve déjà qu'il y a cette mue.
Oui, alors justement, il y a 300 amendements déjà qui ont été retoqués. Et parmi ces 300 amendements retoqués, il y a celui de deux députés des Républicains En Marche, Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau, qui avait demandé l'interdiction du port du voile pour les mineurs. Et finalement, François de Rugy, donc le président de la commission spéciale, donc chargé d'examiner le projet de loi, a jugé cette demande irrecevable. Alors, vous qui avez publié aux éditions du CERF « Combattre le voilement », un livre préfacé par Elisabeth Badinter, eh bien, que pensez-vous de cette irrecevabilité?
Je pense que c'est un prétexte commode pour des députés et l'ERM qui, eux, en sont toujours à ce multiculturalisme-là. Je pense que de la part de la députée, c'était pour faire un coup sans doute médiatique, mais l'amendement était très mal rédigé. Le député Moreau, j'ai lu qu'il écrivait que même la croix, même la kippa devait être interdite. Toujours parce que il faut pas viser une religion particulière, mais la croix n'est pas sexiste comme le voile. Les hommes, les garçons, les filles peuvent porter la croix. Et la kippa, contrairement au voile, ne fait pas de celui qui la porte un organe génital total. C'est ce que fait le voile. Donc oui, il faut assumer qu'il y a une spécificité. Donc moi, ce que j'aurais voulu, et je trouve trouve qu'on est très en retard en France dans ce domaine, c'est travailler une grande loi sur la protection de l'enfance. Par exemple, en ce moment, on parle de l'inceste, on parle de la pédocriminalité. Il a fallu beaucoup d'efforts pour passer de pédophilie à pédocriminalité. Ça n'empêche pas Cohn-Bendit de souvent apparaître sur les CI. On est très en retard sur la protection de l'enfance. Et là, il faudrait créer des outils, changer le code civil. J'aimerais qu'on remplace l'expression « autorité parentale » par « responsabilité parentale ». Parce qu'il y a des parents qui pensent que les enfants sont leurs biens meubles, leur propriété, leur terrain d'expérimentation, leur façon d'avoir le paradis, comme avant les indulgences pour les catholiques au Moyen-Âge. Et on est entré dans une surenchère orthodoxe où plus l'enfant fait le ramadan tôt, plus le prestige religieux rejaillit sur la famille.
Et familial.
Et on voit des gamines porter le voile. Déjà que moi, quand je suis née dans un quartier, il y avait une famille blanche qui s'appelait les Fischer avec 9 enfants. Sinon, on n'était que des Africains et des Turcs et tous musulmans. Personne portait le foulard, mais encore moins des enfants. Même en Algérie, les enfants ne portent pas le foulard. Mais là, on est dans cette surenchère. Donc, il aurait fallu faire une grande loi. Et on a les outils grâce à la commission présidée par Jacques Barrot en 1988. Avant 88, on considérait que la maltraitance, c'était frapper les enfants. Avec cette commission, on a compris que priver un enfant d'affection, priver un enfant de loisirs, mais également les exigences éducatives disproportionnées, tout ça relevait de la maltraitance. Et c'est grâce à ça que Chantal Jouanneau, ministre sous Chirac, avait pu faire interdire les concours des minimis. Pourtant, les enfants, elles sont toutes contentes d'être maquillées et d'être en bikini. Les parents sont tout contents. Donc, ce n'est pas la question du consentement, parce qu'Aurélie Berger dit « oui, il faut interdire l'obligation de porter le voile ». Non, ce n'est pas la question du consentement. C'est la question de l'égalité filles-garçons et de la dignité des filles. Et on a pu interdire le concours de minimis parce que ça sexualisait, ça hypersexualisait le corps des filles, mais le voile a le même effet.
Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre « Combattre le voilement », vous rappelez qu'en fait, ces filles de plus en plus jeunes que l'on voit avec effectivement un foulard, eh bien quand même, chez les féministes musulmanes qui défendent le voile, eh bien ça crée quand même une gêne. Et du coup, on en parle très peu.
Je suis contente que vous ayez dit « féministe musulmane parce qu'on parle de féminisme islamique. Ça n'existe pas. Le rabbin Delphine Orviller le disait, il n'y a pas de féminisme judaïque, il n'y a pas de féminisme islamique. Les deux termes sont antithétiques. C'est un oxymore. Vous ne pouvez pas vous dire féministe et accepter de vous soumettre à une grille religieuse qui est par nature patriarcale. Quelle que soit la religion, les livres religieux ont été rédigés par des hommes et toutes les cosmologies, toutes les histoires commencent par la faute de la femme. C'est Pandore, la femme, qui fait entrer les malheurs dans le monde pour les Grecs. C'est Ève qui fait entrer le malheur dans le monde pour les Juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. Donc à chaque fois, les religions sont patriarcales, misogynes, homophobes. Voilà, et donnent un pouvoir entier de l'homme sur sa famille, et sur, y compris ses enfants. Donc ça n'existe pas. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est que vous avez des féministes qui se disent intersectionnelles, c'est-à-dire, et c'est très à la mode, comme si elles prenaient en compte toutes les particularités, toutes les additions de persécution que peuvent subir les femmes, en les opposant aux féministes universalistes, en faisant croire que le féminisme universaliste, c'est un truc de vieille bourgeoise blanche. Je suis pas très vieille, je suis pas bourgeoise et je suis pas blanche. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et elles vous disent, oh mais le voile ici, les femmes le portent librement. En Iran, par contre, c'est pas bien parce qu'on oblige les femmes. Mais en quoi il change de sens selon qu'il soit obligatoire ou pas obligatoire? Il ne change pas de sens. C'est une liberté conditionnelle des femmes qui ont le droit de sortir en respectant les conditions imposées par les hommes, avec cette fameuse trinité patriarcale présente dans toutes les cultures. La femme doit être vierge, la femme doit être pudique, la femme doit être discrète. Ça se rapporte à ça, le voile.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Fatia Aga Boudjalat pour son livre « Combattre le voilement et le grand détournement ». Alors précisément, on en vient au grand détournement. Ce livre dans lequel vous avez démonté finalement toutes les stratégies en cours et pointé du doigt une grande confusion qui s'est installée et qui joue contre les musulmans et contre la femme de culture arabo-musulmane, Fatia Aga Boudjalat.
c'était juste avant MeToo que mon livre est sorti, mais finalement MeToo m'a donné raison.
Oui.
C'est-à-dire que on est en train de faire un féminisme à vitesse variable, à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que vous auriez accès à une certaine dignité, et moi, à cause de ma couleur, à cause mes origines, à cause de ma culture, moi, j'aurais le droit à une dignité moindre. C'est-à-dire que vous avez des féministes qui vont traquer le patriarcat jusque dans la syntaxe, exiger l'écriture inclusive, mais qui, par contre, ne voient aucun problème avec le voilement. Et là, on est dans une inversion complètement totale. C'est-à-dire que maintenant, on parle de polygamie avec tendresse. On a de Assa Traoré dans toutes les interviews données. Elle parlait de l'expérience formidable de la polygamie. Et on laisse passer ça. On a eu une tribune de médecins qui défendait le certificat de virginité au nom de la défense des femmes. Non, au nom de la défense d'un système patriarcal qui fait de la femme, du corps de la femme, l'arme du crime, l'objet du crime. Voilà. Et là, on est en train... je commençais dans le grand détournement par citer cette pétition pour dépénaliser l'excision qui avait été lancée par des intellectuels de gauche, sociologues, avec notamment Alain Caillé, qui est souvent encore interviewé dans Libé, et qui allait même jusqu'à expliquer que de toute façon, le plaisir sexuel féminin est psychologique, et que donc l'ablation du clitoris n'y faisait pas grand-chose. Voilà jusqu'où on était prêt à aller. Et une sociologue disait, mais de quel point de surplomb puis-je me placer pour dire que cette pratique ne convient pas ? Ben cocotte, ce qui est bien pour toi ou pour tes filles, c'est bien aussi pour moi et mes filles. Ce n'est pas acceptable. L'universalité, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes expériences de vie puis qu'on a les mêmes ambitions. C'est qu'on prend le degré le plus élevé de dignité, qui n'est pas le fruit d'une couleur, qui est le fruit de conquêtes de femmes en Europe et même dans d'autres pays, et qu'on veut permettre à toutes les femmes, quelle que soit leur couleur, d'atteindre ce même niveau d'opportunité politique, économique, mais également de dignité.
Pour vous, ce regard, finalement, très complaisant, hein, c'est du racisme.
Oui, mais c'est exactement du racisme, c'est de la condescendance, c'est de dire, déjà pour les gens d'extrême-gauche militants, il y a ce mépris, puis cette condescendance qui consiste à se dire, ah mais ces gens-là, ils ne peuvent pas accéder à la façon de raisonner politique. Donc on est obligé de passer par cette étape-là.
Il faut une exception culturelle.
Mais on va finir par aller gagner à notre cause. Voilà. Alors qu'en fait, ça fonctionne à l'envers, l'antrisme. C'est eux qui se sont laissés contaminer complètement. C'est le NPA qui présente une candidate voilée. Ils n'ont plus de crédibilité. Ils sont en train de recréer une espèce d'indigène qui n'existe pas. C'est-à-dire, par exemple, on vous parle de la langue arabe qu'il faudrait enseigner. Moi, pas de souci, mais qu'on l'enseigne dans les beaux quartiers. On ne va pas enseigner l'arabe dans les quartiers populaires. Moi, mes parents ne parlaient pas arabe. Personne dans ma famille ne parle l'arabe littéraire. Ma mère parle l'oranais, voilà. Donc, on est en train de recréer un espèce de sauvage, et ce sont ces gens-là qui osent tenir le discours de l'authenticité. Et donc, si vous voulez être une vraie immigrée, faut être une musulmane. Et si vous voulez être une vraie musulmane, faut être islamiste. C'est-à-dire, faut être voilée. On est en train de banaliser une ultra-orthodoxie. Et ce qui m'énerve, c'est que les islamistes qui, on voit leur intérêt là, pourquoi pas, c'est de bonne guerre, c'est leur dada. Mais que ce soit des gens de gauche, alors que la gauche était le camp de l'émancipation individuelle et collective, qui acceptent maintenant de renoncer à ça en se disant « je suis généreuse, pour moi et mes filles, je veux ça, mais pour les autres, non ». Non, c'est tout simple. Les bourgeois cherchent à éliminer la concurrence pour leurs enfants. Donc ils cherchent à demander aux enfants d'immigrés de cultiver leurs différences, y compris des différences fantasmées, en leur faisant porter des tenues qui n'existent même pas en Algérie, et qui n'existaient pas en Algérie, par exemple.
Oui, comme le burkini, par exemple, effectivement, qui n'existait pas, bien sûr, au
temps
du prophète.
Comme le burkini qui a été créé en Australie, qui ouais. est
là, c'est commercial.
Une œuvre du capitalisme, ouais. parce que la mode pudique, la mode islamique, voilà, le capitalisme est prêt à embrasser toutes les causes, et ceux qui nous ont fait culpabiliser sur nos formes, voilà, maintenant ils vous disent big is beautiful, faut accepter tous les corps, faut tout. Voilà, vous avez maintenant des néo-féministes comme la lettre Les Glorieuses qui se font sponsoriser par Guerlain et les autres entreprises du luxe. Depuis quand elles sont féministes, ces entreprises du luxe? Mais voilà, Nike qui fait des hijabs de course,
Décathlon.
Le burkini qui a été fait en Australie, vous inquiétez pas, dès qu'il y a de l'argent à se faire, c'est comme
comme l'invention du halal qui n'existait pas avant les années 75. Voilà, c'est le capitalisme qui s'empare du religieux pour faire de l'argent.
Oui, d'ailleurs, effectivement, un livre a été écrit sur ce sujet, capitalisme et marché halal. La journée du hijab à Sciences Po, comment vous aviez réagi à ce moment-là?
Il y avait quelque chose à hurler de rire. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé le même jeune qui, au moment de la sortie du film La journée de la jupe, avait dit donc de l'UNEF, « Ah, c'est pas bien, faut combattre le voile, faut défendre l'émancipation. » Et le même défendait le World Hijab Day. En fait, ça fait partie d'une stratégie de communication. Il faut faire de ce signe du patriarcat un objet festif de libération. Et ça reprend la stratégie d'un communicant qui a inventé les relations publiques, la communication aux États-Unis, à qui un cigarettier était venu demander « Comment je fais pour que les femmes se mettent à fumer, vu que c'est un tabou ?» Et donc, il avait profité de la manifestation de femmes pour le droit de vote des femmes aux États-Unis. Il avait pris des comédiennes, il avait prévenu les journalistes qu'il y aurait un happening. Et un signal donné, ces comédiennes avaient sorti une cigarette et les avaient appelées les torches de la liberté. Et voilà comment un objet d'aliénation pure qu'est la cigarette était devenu un symbole de liberté. Bon, on a fait pareil avec le hijab. Alors, le World Hijab Day, les ateliers comme ça, c'est toujours cette condescendance en disant, regardez, la tolérance, c'est quelque chose qui est fait pour se sentir bien et pour se congratuler. Oh, qu'est-ce que je suis généreux. Attention, j'en veux pas pour moi, mais pour ces gens-là, mais qu'est-ce que je suis généreux. Moi, je n'aime pas la tolérance. Soit vous respectez quand c'est respectable, soit ce n'est pas respectable et il faut le combattre. Donc, sur le hijab, qu'est-ce qu'on peut dire? Que ça se banalise. On met en avant, par exemple, la figure de cette femme, cette syndicaliste voilée, Myriam Pouchetou. Et on dit, regardez comme elle est moderne, regardez comme elle est respectueuse, regardez comme elle est tolérante, elle défend même les LGBT. Mais attendez, c'est pas elle, c'est pas son islam, c'est l'état de droit français qui ne lui laisse pas le choix. Maintenant, qu'est-ce que elle dirait dans un pays comme l'Iran, où on pend les homosexuels? Et surtout, qu'est-ce qu'elle dira à ses enfants? Est-ce qu'elle dira à ses enfants que Allah les aimera tout autant s'ils sont homosexuels? Ou est-ce qu'elle leur dira que l'homosexualité est vouée à la destruction? C'est ça, il faut être cohérent. Un hijab, ce n'est pas un serre-tête ou un gadget. C'est le signe d'une piété. Ma mère le porte, une de mes nièces le porte, mes tantes le portent. J'ai assez de respect pour elle, pour voir en lui ce qu'il est, c'est-à-dire un objet de piété, et c'est pas à la carte. C'est un signe d'orthodoxie. Et donc, avec l'orthodoxie, vient le refus de mixité. Et on a donc des filles qui ne veulent pas faire piscine. Vient le refus de la supériorité de la loi sur règle. Et vient cette fameuse trinité de la virginité, de la pudeur et de la discrétion.
Dernière question, Fatia Agagboudjala. Cette exception française, effectivement, si on la compare au Canada, avec les accommodements raisonnables, au Royaume-Uni, est-ce que vous la sentez menacée? Est-ce que vous êtes inquiète?
Je suis très inquiète et quelquefois je suis même complètement désespérée. Je me dis que moi je suis très représentative des enfants d'immigrés. J'ai assez d'humilité pour pas penser que je suis exceptionnelle et rare ici comme personne. Par contre, en installant cette orthodoxie, des gens comme moi vont de moins en moins à exister parmi les descendants d'immigrés, c'est-à-dire des gens qui sont capables de se déterminer seul, de se percevoir d'abord comme citoyen, des gens qui ne font pas de leur couleur de peau une identité. Voilà. Les idées qu'on a, c'est pas ce que nous sommes. Les identités, c'est extérieur à nous. On a réfléchi pour les avoir. Et on travaille pour l'intérêt général. C'est ça, la communauté politique nationale de la République. Et c'est ça qui rend fou les indigénistes et les multiculturalistes qui, eux, veulent l'ethnie, le communautarisme ethnique. Donc, je suis très inquiète. Pas par les élèves radicalisés, parce qu'ils sont vraiment une poignée et on ne les voit pas à l'école publique. Je suis très fatiguée par le fait de combattre la bigoterie qui s'est généralisée. C'est-à-dire des filles qui vont vous dire « Oui, c'est normal, faut pas parler aux garçons, sinon des députes. Oui, faut pas faire de sport. Oui, seul Allah décide. » Jusqu'à cette médecin voilée qui a dit à mon frère il y a 2 ans, il se plaignait de pas guérir malgré son traitement. Elle lui a dit « C'est normal, seul Allah guérit. »
Ah oui, effectivement.
Mais elle a fait 7 ans d'études, donc c'est évident qu'elle n'en croit pas un mot. Mais ce qu'elle a dit, c'est par la connivence communautaire, parce que mon frère était arabe. Donc à un Jean-Michel, elle n'aurait pas dit ça. Mais résultat, moi je me pose une question. Si ce voile fait que la religion est omniprésente, est-ce qu'elle a examiné mon frère comme elle aurait examiné un Jean-Michel? un examen qui aurait pu lui permettre de percevoir, je ne sais pas, un ganglion quelque part. Est-ce que mon frère était aussi bien soigné? Et c'est comme ma mère qui me dit, moi, si j'ai un gynécologue blanc, ça ne me gêne pas que ce soit un homme. Mais s'il est arabe, je ne veux pas. Là, je veux une femme. Vous voyez, c'est complexe. L'emprise communautaire qui est omniprésente et les gamins sont intoxiqués de religion. Donc, ce n'est pas la laïcité française qui persécute les religions. C'est notre modèle unique qui est beau, qui mérite d'être défendu, qui est la cible du soft power américain multiculturaliste et du soft power islamiste pour supprimer cela. Nous, on a ce modèle-là, on doit le défendre parce qu'il est formidable et il permet de réhabiliter la personnalité, l'individu. J'ai le droit d'être heureuse et j'ai le droit de choisir ma voie.
Je vous remercie, Fatia Agag-Boudjala. Merci encore. Et je rappelle donc vos livres, Le Grand Détournement et Combattre le voilement. Et c'est publié aux éditions du CERF. Merci d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
Résister, résistant. Au découragement de penser que cette fois, ça y est, nous sommes trop égarés, la terre trop dévastée. Qu'il est inutile de supplier, qu'il est inutile de lutter, que la fin du monde est arrivée, que rien ne pourra plus l'éviter.
Dans son dernier essai « Révolution spirituelle » publié chez Almora, le philosophe et spirituel musulman Abdennour Bidar lance un appel à la jeunesse à s'insurger spirituellement face à la crise de civilisation que traverse l'humanité. Crise écologique liée à la surconsommation, crise sanitaire bien sûr, mais aussi crise de l'âme. Se définissant comme un optimiste conscient, ce petit essai sur un ton parfois alarmiste se veut avant tout un souffle d'espérance. Abdennour Bidar.
J'ai conscience de la gravité d'un certain nombre de dangers qui nous menacent ou de déséquilibres très graves de la civilisation dans laquelle nous sommes, mais j'ai au fond de moi un optimisme qui est encore plus puissant, si vous voulez, et je le dirais d'un mot qui n'est pas nécessairement religieux, j'ai une foi véritablement qui m'anime, une foi en l'être humain, une foi en l'humanité, une foi en la capacité de notre humanité à surmonter les crises, si graves soient-elles. Et je vois tellement autour de moi de détresse, d'impuissance, de sentiments d'impuissance, de désarroi, de gens qui ne savent pas par où commencer dès lors qu'ils veulent s'engager pour essayer de transformer les choses, de changer le monde, etc., qu'il m'est apparu comme nécessaire de dire « Eh, nous pouvons commencer par nous occuper de nos âmes », comme le disaient les philosophes de l'Antiquité, comme l'ont dit également les maîtres spirituels hein, des différentes traditions de sagesse d'Orient et d'Occident. « Commence par toi-même », c'est-à-dire « Commence par établir, toi l'être humain, ce lien entre ton petit ego » et ce que j'appelle dans le livre l'esprit. L'esprit, c'est-à-dire cette grande énergie, cette grande vie qui traverse l'univers et qui nous traverse. Et je crois que si nous n'arrivons pas aujourd'hui à nous relier à cette grande énergie, si nous ne comptons que sur les forces de notre petit ego pour transformer la civilisation, hélas, nous n'y arriverons pas. En revanche, si nous savons à nouveau mobiliser nos forces spirituelles, alors là, je suis confiant et j'ai la foi.
Oui, effectivement, vous parlez de grande énergie, mais vous parlez également, Abdennour Bidar, du grand génie créateur. Là, on n'est quand même pas loin de la profession de foi. Hein. Vous dites, notre pire folie, à mon avis, s'il nous en restait une à commettre, serait d'admettre que nous n'étions qu'une anomalie qui ne faisait pas partie de l'œuvre de vie du grand génie créateur, de tout ce qui naît et de tout ce qui meurt. Ça, c'est quand même une profession de foi, Abdennour Bidar.
Ah oui, tout à fait. Hein,
vous l'assumez
Ah oui, mais bien sûr. Oui. Complètement assumé. Moi, j'aime voir l'univers et j'aime sentir en moi l'univers comme animé par une intelligence, comme animé par, je suis musulman, par une miséricorde profonde. Et j'ai cette foi chevillée au corps que cette intelligence, cette miséricorde qui sont à l'œuvre dans l'univers, eh bien, font toujours à un moment ou à un autre triompher le vrai, le juste, le beau, là je me mets à parler un peu comme Platon, si vous voulez, mais véritablement que ce que nous traversons et qui est l'œuvre de la souffrance, qui est l'œuvre de la détresse, qui est l'œuvre du mal, eh bien, a son temps, a peut-être sa nécessité, mais que, eh bien, nous devons savoir, dans ces épreuves difficiles, dans ces moments d'obscurité, conserver l'espérance, conserver la foi, et conserver la capacité à regarder au-delà, et à viser au-delà, et à nous projeter avec toutes les forces de notre être, personnelles et collectives, pour participer justement à cette grande œuvre créatrice qui est au cœur de la nature et qui est au cœur de l'univers.
Et dans le même temps, vous, effectivement, vous insistez beaucoup sur la question du lien, même du lien interculturel, interspirituel, interreligieux, j'allais dire. Lorsque vous écrivez sur cette présence, sur l'esprit, hein, l'esprit avec un grand E, la majesté d'Allah, la béatitude du Bouddha, la divinité du Christ en croix, le souffle dans la Torah, en ceci ou cela, je le crois, c'est l'infini dans le fini qui s'est révélé là.
Ah bien, si vous voulez, je crois que l'heure est à une très grande solidarité des espérances. Des espérances. Hein. C'est-à-dire que l'on soit croyant de telle ou telle confession, de telle ou telle obédience, que l'on soit agnostique, que l'on soit athée, moi je m'adresse, et je ne suis pas le premier à le faire exactement dans ces termes, à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'un avec les ressources de la religion, l'autre avec les ressources de l'humanisme, l'autre avec les ressources simplement, je dirais, de ce que je viens d'appeler l'humanisme, c'est-à-dire une confiance en l'homme, une espérance en l'homme, une exigence aussi pour l'homme, eh bien nous devons nous solidariser pour essayer de transformer la réalité dans laquelle nous sommes et qui est si souvent, je dirais, à la fois au niveau du panorama général que de notre vie quotidienne, surtout ces derniers mois, si facilement désespérante.
Alors, Abdennour Bidar, dans la deuxième partie de votre livre, c'est celle de la résistance. Et là, finalement, vous voulez quasiment que ceux qui résistent au système eh bien, se posent en anarchistes spirituels.
Oui. Alors, vous savez chez qui je l'ai pris, cette expression d'anarchiste spirituel? Je l'ai emprunté à Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, au milieu, donc le grand sage indien de Pondichéry, utilisait déjà cette expression, notamment dans un livre qui s'appelle Le cycle humain, au milieu du XXe siècle. Et elle m'a paru extrêmement forte. Parce que l'anarchiste, pour moi, ce n'est pas l'individualiste qui n'écoute que ses désirs, que son ego, qui n'en fait qu'à sa tête et qui met dans la société du désordre et de la violence. Pour moi, l'anarchiste, c'est l'homme qui tente de vivre véritablement à partir de son propre cœur, à partir de ce qu'il porte en lui de plus transcendant, de plus divin, de plus profond. Je dirais la partie divine de son âme ou la partie immortelle de son âme, comme disait Platon. Et je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'apprendre à devenir des anarchistes spirituels. C'est pour cela que je dis qu'il est spirituel, cet anarchiste. C'est quelqu'un qui arrive à s'engager dans la société, qui cultive une compassion, une fraternité vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de la nature, parce que c'est ce que lui dit son cœur. Comme le disait le moine Thich Nhat Hanh, qui a fondé le voyage des pruniers, il faudrait que nous sachions entendre le sanglot de la terre qui pleure. Et il faudrait que nous sachions entendre également le sanglot de l'humanité qui pleure, parce qu'aujourd'hui, cette humanité, elle n'est pas à la hauteur d'elle-même. Nous produisons des sociétés déshumanisées, nous nous conduisons avec inhumanité les uns envers les autres, et donc, à mon sens, il est grand temps que nous retrouvions, que nous trouvions cette culture spirituelle, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit simplement humaniste, cette culture spirituelle par laquelle nous apprenons à regarder avec le cœur, à vivre avec le cœur, à nous conduire avec le cœur. Et à mon sens, si nous ne faisons pas cet effort-là, alors, eh bien, je pense que la suite des événements pour le XXIe siècle va être de plus en plus difficile, voire de plus en plus tragique.
Je vous remercie, Abdennour Bidar. Je rappelle donc le titre de votre livre, Révolution spirituelle, et c'est publié chez Almora. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.